Troisième partie. La perte. La plus grande perte est ce qui meurt en vous, alors que nous sommes vivants. Norman Cousine, journaliste politique. La perte est une expérience universelle. Elle est inévitable, elle est inéluctable et elle est naturelle. Nous perdons tous quelque chose chaque jour de nos vies. Parfois, nos pertes sont si subtiles qu'elles sont presque imperceptibles. Dès notre jeunesse, par exemple, nous voyons le progrès changer l'aspect des maisons, des rues, des épiceries, des cinémas où nous avons grandi. La transformation progressive d'un nouveau centre commercial ou la disparition de notre café préféré a beau paraître insignifiante sur le coup, lorsque nous additionnons ces changements et que nous jetons un regard rétrospectif, nous reconnaissons à peine notre quartier dans sa version actuelle. Bien qu'en toute logique il soit naturel que notre environnement change, nous accordons rarement à nos émotions une occasion de rattrapage et d'ajustement à ce changement. Dans notre culture, on nous demande de tout simplement suivre le courant et d'accepter la transformation. En vérité, nous avons besoin de temps pour nous adapter. Nous avons besoin de temps pour nous acclimater au vide laissé par la perte des choses familières dans nos vies et dans nos cœurs. Même si la perte d'un environnement familier met rarement un terme à nos activités quotidiennes, ce n'est pas le cas d'autres sortes de pertes. Celle d'un enfant, d'un partenaire de vie, d'un parent ou d'un ami ou collègue bien-aimé. Même lorsque nous savons à l'avance que notre être cher est sur le point de quitter ce monde et que nous nous sommes préparés à la perte, toutes les précautions du monde n'élimineront pas la douleur. La perte fait mal, la douleur est très réelle et la raison de cette douleur est ce qui donne une telle force à ce groupe de codes de sagesse. Pourquoi la perte fait mal? Lorsqu'un proche se trouve physiquement avec nous, il se crée une énergie à partir de la fusion de notre attention, de notre conscience et de nos sentiments l'un pour l'autre. Plus qu'une métaphore, ce champ d'énergie fort, réel et mesurable résulte de champs bioélectriques, biomagnétiques et photoniques que nous émettons à partir des cellules de notre sang, de nos organes et de nos tissus. Nous percevons cette énergie sous la forme du sentiment que nous éprouvons lorsque nous rencontrons un amoureux ou un ami cher, par exemple, dans un café. Dès que nous le voyons, nos yeux s'allument. Nous avons un grand sourire au visage et l'énergie qui se réveille en nous provoque des fourmillements. Et tout comme une fournée vraiment savoureuse de biscuits au cacao et beurre d'arachide reflète la qualité et la quantité des ingrédients que nous avons incorporés dans le mélange, c'est cette étincelle, ce sourire, cet éclat et ce picotement qui révèlent l'énergie particulière que nous créons en présence de nos êtres chers. Et c'est précisément parce que ce champ d'énergie est si réel que lorsqu'il se dissout à l'heure de ce décès, nous ressentons tant de douleur. Lorsque nous perdons un être aimé, le champ d'énergie que nous avons créé ensemble commence à se désintégrer. Il le faut, car l'énergie du corps, qu'il a jadis soutenu, n'existe plus. Tout comme l'eau et le sucre fusionnent en un système fluide lorsqu'ils sont combinés, les champs que nous créons dans nos relations émotionnelles sont fluides et malléables. Ils changent au gré de nos humeurs, de notre rythme, de notre qualité de communication et de la profondeur de notre confiance. Et tout comme l'amalgame du sucre et de l'eau commence à changer si l'eau s'évapore, l'énergie de notre relation se met à prendre une nouvelle forme en l'absence d'un être aimé, particulièrement s'il meurt. Nous entendons souvent des gens refléter ce fait et exprimer l'impression que quelque chose leur a été arraché, ou qu'ils se sentent incomplets et vides lorsqu'ils perdent un être proche. Ils disent vrai, le vide est réel, et il résulte de la perte de l'énergie qui fut jadis créée avec cette personne devenue absente, même parfois à distance. Accueillir l'irrévocabilité. C'est le sentiment d'irrévocabilité qui définit l'importance de la perte dans nos vies. Lorsque nous perdons un être cher, nous ressentons cette perte en réalisant que le corps que nous avons jadis touché, tenu dans nos bras, qui nous a fait rire et pleurer, n'existe plus. Nos sens sont confrontés au fait qu'à un moment donné, quelqu'un est avec nous dans le monde, respire le même air que nous et partage toutes les choses qui définissent notre condition humaine. Puis, que l'instant d'après, cet être a disparu. C'est l'irrévocabilité émotionnelle de notre perte qui s'impose à nous et nous jure que nous ne serons plus jamais la même personne. Nos sentiments nous disent la vérité. Il nous est littéralement impossible de rester le même, car notre être cher était le catalyseur d'une façon d'être qui ne peut plus exister. C'est l'immensité de cette prise de conscience et du degré auquel nous accueillons la profondeur de sa signification qui détermine la force que nous trouverons dans notre peine. Ayant accepté ces faits et accueilli leur sens, nous nous trouvons à un carrefour où nous devons choisir l'une de deux voies importantes. Une voie nous amène à nier notre douleur. Dans notre déni, nous tentons de vivre chaque jour comme si nous étions la même personne, de vivre dans le même monde qu'avant notre perte de l'être cher. La seconde voie nous incite à accepter notre douleur. Et dans notre acceptation, nous ouvrons la porte à la guérison que nous procure la peine. C'est dans notre volonté d'accepter la perte que nous trouvons la guérison. La perte enseigne l'amour. Le philosophe grec Aristote a fait remarquer que la nature a horreur du vide. Il avait observé que la nature ne permet pas longtemps qu'une chose reste vide. L'herbe pousse lorsque des arbres sont supprimés d'une colline. L'air remplit un récipient lorsqu'on retire l'eau. Et l'équilibre parfait que nous cherchons à entretenir dans nos vies sera rompu par la directive première de la nature, qui est de créer du mouvement et du changement. La science moderne soutient l'observation d'Aristote. Les équations qui décrivent les systèmes fractals, par exemple, confirme que l'équilibre cédera au chaos, à la recherche d'un ordre supérieur d'équilibre, et ce, à l'instar du vide de nos vies créé par la perte de quelqu'un que nous aimons et adorons. De nouvelles relations fleurissent et grandissent afin de remplir le vide des parents, amis et amants que nous avons perdus. Implicitement, chacun de nous peut perdre les personnes et les façons de vivre qu'il chérit et auxquelles il tient. C'est inévitable, car rien ne dure indéfiniment. Ainsi, nous connaîtrons certainement la perte dans nos vies, la peine qui en est la conséquence, ainsi que la manière d'en guérir. Que ce soit la perte d'un ami ou d'un être cher, ou celle d'une communauté et de tout un mode de vie, le résultat est le même. La peine est le système de soutien offert par la nature pour nous faire accepter la perte et nous aider à sainement passer à autre chose dans la vie. C'est ainsi que la nature nous amène à ressentir notre chagrin malgré notre réticence. Le seul moyen de guérir d'une perte, c'est de ressentir ce que signifie l'absence de quelque chose ou d'un être aimé dans notre vie. Le traumatisme émotionnel de la peine est directement proportionnel à notre sentiment de perte. Plus la blessure est profonde, plus les émotions sont intenses et plus nous devons plonger profondément en nous pour trouver l'amour qui nous permettra de transcender la douleur. C'est par notre peine que nous découvrons une capacité d'aimer plus profonde et parfois étonnante. Les peuples anciens ont identifié des façons de considérer la perte qui permettaient plus facilement de ressentir la peine et de faire son deuil. Ces perspectives ne pouvaient pas changer la source des blessures les plus profondes de la vie, ni le fait que des maris succombaient au combat, des épouses en couche et des amis et des proches à de mystérieuses maladies dans la fleur de l'âge. Lorsqu'ils invitaient dans leur vie les codes de sagesse de leur tradition, ils découvraient un point de vue sain grâce auquel ils pouvaient transcender leur perte. Un voyage en solo. Avec la peine qui suit la perte, nous faisons temporairement l'expérience d'un choc émotionnel et physiologique. Et même entouré des amis et des proches les mieux intentionnés et de leur soutien, tout comme pour la peur décrite dans la deuxième partie, nous finissons par subir seuls cette peine. Personne ne peut vivre notre chagrin à notre place. La peine est un voyage en solo. Ce voyage nous mène souvent à un champ de bataille intérieur, où nous découvrons des émotions conflictuelles et un sentiment de vide, d'insensibilité et d'isolement. Avec nos émotions conflictuelles viennent les questions apparemment sans fin qui tournent sans cesse dans notre esprit. Entre autres, est-ce que j'irai mieux un jour? Que faire maintenant? Pourquoi cela est-il en train de m'arriver? Une force existe qui ne peut être connue que par la perte et la peine. Et cette force nous permet d'atteindre les plus profonds niveaux de la maîtrise personnelle.